Merci d'écouter Radio France Internationale, 10h30 à Kampala, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Un nouveau journal avec Édouard Dupénoat.
Et les obsèques de Rebecca Cheptegei à la une de cette édition africaine. Cette athlète ougandaise marathonienne de très haut niveau engagée au JO de Paris. Victime d'un féminicide brutal il y a 3 semaines, elle avait été brûlée vive par son compagnon. Le président des Comores blessé hier dans une attaque au couteau. La présidence assure qu'il se porte bien. Un conseil des ministres extraordinaire se tient ce matin. Toute la classe politique condamne cette agression. Les recommandations de la société civile gabonaise sur l'avant-projet de constitution. Plusieurs organisations suggèrent de nombreux amendements sur cette nouvelle loi fondamentale, alors que les parlementaires eux-mêmes sont en train de bûcher sur le texte. Et puis en Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao qui analysent les prix de la fève au Ghana avec un œil inquiet. Certes, ils ont été fixés à la hausse, mais c'est une augmentation que beaucoup jugent encore trop faible. Or, les deux pays sont liés par convention et côté ivoirien, on craint donc une tendance similaire. Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies hier à Eldoret, dans l'ouest du Kenya, à l'occasion d'un cortège funèbre pour Rebecca Cheptegei, l'athlète ougandaise, marathonienne, morte il y a 10 jours après avoir été brûlée vive par son compagnon. Il l'avait au préalable aspergée d'essence. Elle vivait et elle s'entraînait sur ces hauts plateaux kényans, mais ses obsèques sont prévues aujourd'hui dans son pays natal. Ce féminicide brutal a suscité une vague d'émotions et de condamnations internationales. Correspondance régionale, Lucie Mouillot.
Un premier hommage dans la ville kényane d'Eldoret s'est tenu ce vendredi dès la sortie de la morgue du corps de Rebecca Cheptegei, entourée de sa famille et de ses camarades athlètes. Des proches, mais également des activistes rassemblés pour dénoncer les violences faites aux femmes avant le rapatriement dans un long cortège de la défunte en Ouganda, dans son district natal de Bukwo, à l'est du pays. L'enterrement et la veillée nocturne sont attendus dans le village de son père à Kapsiwa, avec les honneurs militaires pour la marathonienne de 33 ans, engagée dans l'armée, une cérémonie qui se tiendra en présence de délégations ministérielles mais surtout d'une foule d'athlètes ougandais, nombreux à s'être émus de la mort soudaine de la coureuse de fond. Une perte insupportable par exemple pour le champion olympique homonyme de la victime, Joshua Cheptegei. Les violences sexistes et sexuelles n'ont pas leur place dans nos communautés, écrit-il sur les réseaux sociaux. Depuis 2021, plusieurs femmes athlètes sont décédées au Kenya dans des circonstances similaires. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Le tribunal militaire de Kinshasa Gombe, en République démocratique du Congo, prononce de première peine dans l'affaire dite de la tentative de coup d'État. 37 personnes ont été condamnées à mort pour avoir pris part à ces événements violents au mois de mai dernier. L'attaque du domicile de Vital Kamerhe puis du palais de la Nation. Elles ont été reconnues coupables notamment d'attentats et de terrorisme. 14 personnes enfin ont été acquittées. Les avocats de ceux qui ont été reconnus coupables prévoient d'interjeter appel. La RDC ou les proches de l'opposant Seth Kikuni obtiennent de ces nouvelles. Plus de 10 jours après son arrestation, il a été interrogé hier soir au parquet général près la cour d'appel de la capitale. Sa défense précise qu'il a été entendu sur des accusations d'incitation à la désobéissance civile et de propagation de faux bruits. Le président des Comores, blessé hier dans une attaque à l'arme blanche, Azali Assoumani assistait aux funérailles d'une importante dignité locale à Salimani, non loin de la capitale. Alors un homme l'a agressé au couteau, le chef de l'État a été légèrement blessé. Les autorités ont rapidement communiqué sur son état de santé, rassurant selon elle, tandis que l'agresseur a été interpellé. Les réactions politiques, Abdallah Mzembaba, sont unanimes pour condamner cette violence.
Daoudou Abdallah Mohamed, leader du parti Orange et ex-candidat à la présidentielle de janvier dernier, a dénoncé cet acte tout en soulignant qu'il est le résultat des tensions politiques actuelles. Il appelle à résoudre les désaccords pacifiquement. Maître Ibrahim Ali Mzimba, président du Pari, parti qui se déclare d'opposition, a condamné l'agression, qualifiant l'attaque de lâche et contraire aux valeurs de tolérance et de paix. Il exhorte les forces politiques à rejeter la violence sous toutes ses formes. De son côté, Maître Saïd Larifou, leader du parti Ridja, voit dans cette attaque l'expression d'une violence anormalement élevée aux Comores, appelant à une prise de conscience collective pour restaurer la paix sociale. Le parti au pouvoir, la CRC, a également exprimé son soutien total au président Azali, tout en saluant son rétablissement rétablissement rapide. Selon une source proche du pouvoir, le président de la République est retourné à l'hôpital hier soir après un premier passage dans l'après-midi. Un conseil interministériel extraordinaire et une conférence de presse sont prévues ce matin. L'agresseur, un jeune gendarme d'une vingtaine d'années, a été arrêté dans les instants qui ont suivi l'attaque contre le chef de l'État, Abdelhamzem Baba Moroni.
Les autorités militaires du Nigeria revendiquent la mort d'un chef de bande criminelle et d'une quarantaine de ses hommes. L'armée indique avoir tendu une embuscade à Alilou Choubou et à ses troupes dans l'état de Zamfara. Cette bande y est accusée d'être responsable de très nombreux kidnappings contre rançon. Les combats ont duré plusieurs heures, mais l'armée assure aussi avoir saisi un vaste arsenal d'armes de guerre. Le président bissau-guinéen tempère considérablement son retrait annoncé de la présidentielle de l'an prochain. Oumaro Sissoko Embalo était pourtant explicite avant-hier devant les journalistes. Il affirmait qu'il ne serait pas candidat l'année prochaine. Alors hier, en estimant que finalement tout cela méritait réflexion, les observateurs s'interrogent. Pourquoi donc cette valse ? Question que l'on pose ce matin à Maurice Paulin-Toupane. Il travaille à l'Institut de recherche et de sécurité de Dakar. Et selon lui, tout est question de contexte. Et
il faut placer ces déclarations dans le contexte actuel en Guinée-Bissau avec une saisie de près de 3 tonnes de drogue, alors que le président lui-même avait déclaré après son élection que l'histoire du trafic de drogue en Guinée-Bissau s'est désormais finie. Cette déclaration intervient aussi dans un contexte où il y a des tensions entre le président et ses principaux soutiens. On vient de sortir d'une élection législative perdue par la mouvance présidentielle. Il a fallu la dissolution de l'Assemblée nationale pour que le président puisse pouvoir avoir les rênes du pouvoir et dans un contexte aussi où les difficultés économiques sont persistantes. Donc l'opinion publique est très divisée. En réalité, il n'y a aucune contrainte qui empêcherait le président de la République de ne pas se présenter à l'élection présidentielle prochaine. Pour moi, c'est un jeu politique qui vise non seulement à distraire l'opposition, mais aussi à détourner l'attention de l'opinion publique sur notamment la saisie de drogue qui démontre en réalité que le trafic de drogue continue en Guinée-Bissau.
Maurice Paulin-Toupane de l'Institut de recherche et de sécurité de Dakar, propos recueillis par Willy Diallo. Il est 7h37 à Bissau. Une heure de plus à Libreville, le Gabon, où les parlementaires de la transition continuent de plancher sur le projet de nouvelle constitution. Pendant encore une semaine, ils ont sous les yeux ce texte sur lequel ils pourront proposer des amendements sans que leurs remarques ne soient contraignantes. D'ailleurs, ce sont les militaires du CTRI qui auront le dernier mot. La société civile a pris les devants. Elle a livré hier ses propres propositions de modification pour cette loi fondamentale et que nous détaille notre correspondant Yves-Laurent Goma.
La société civile formule plusieurs amendements. D'abord, une réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Elle exige aussi un allègement des conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Sentiment Onda, porte-parole de la société civile.
Le point critique, c'est naturellement les dispositions qui stipulent qu'il faut être né de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais, être marié à un gabonais ou à une gabonaise. La proposition émise par la société civile ici, c'est que cet article viole le code de la nationalité applicable depuis les années 1960. Cette disposition, en outre, est discriminatoire et excessive.
Les collectifs citoyens demandent aussi de supprimer le poste de vice-président de la République et exigent une plus grande clarté sur les critères de destitution du président de la République.
La proposition qui est faite, c'est d'inclure les crimes économiques et financiers, d'inclure la propagande ethnique ou régionale, les prises illégales d'intérêts, le blanchiment des capitaux, les crimes de sang, les répressions de manifestations dans les motifs d'accusation du président.
Les députés et sénateurs qui examinent le projet de constitution vont auditionner plusieurs acteurs, dont la société civile. Mais ce sont les autorités militaires du CTRI qui auront le dernier mot. Yves-Laurent Goma, Libreville.
Des réactions en demi-teinte se font entendre au sommet des États africains après l'annonce d'une meilleure intégration au Conseil de sécurité de l'ONU. Avant-hier, les États-Unis ont expliqué qu'ils allaient soutenir une réforme du Conseil de sécurité pour que l'Afrique y obtienne 2 sièges permanents. Cela fait près de 30 ans que l'Union africaine réclame une réforme dans ce sens. Sauf que Washington annonçait déjà la couleur, des sièges permanents, oui, mais sans le droit de veto qui va avec. Pour l'heure, le président kényan, William Ruto, préfère y voir un signal positif. Il l'a dit à Berlin, la capitale allemande, où il est en ce moment en déplacement.
La position de l'Afrique n'a pas changé. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit être réformé. Cette organisation est un symbole de la démocratie et représente le monde. Alors, elle ne peut pas continuer à exister en l'état, en privant un continent, 1,4 milliard de voix de s'exprimer. Je suis extrêmement reconnaissant que les États-Unis aient proposé que deux États africains siègent au Conseil de sécurité de l'ONU. Lorsque ces deux sièges seront créés, nous, les pays d'Afrique, devrons décider de notre représentation. Cet organe ne peut continuer d'exister sous sa forme actuelle. La récente proposition est donc une bonne chose et je demande aux membres du Conseil de sécurité de soutenir cette proposition de réforme.
Les propos de William Ruto recueillis par notre correspondant Pascal Thibault. Les premières inquiétudes enfin des producteurs ivoiriens de cacao à l'approche de la campagne commerciale. Vous l'avez entendu peut-être sur RFI ces derniers jours, le Ghana a fixé les prix de son propre cacao pour une somme équivalent à 1800 francs le kilo. On rappelle qu'il y a quelques mois, la tonne de fèves avait pulvérisé ses records sur les marchés mondiaux à quasiment 11 000 dollars. Sauf que Côte d'Ivoire et Ghana sont liés depuis plusieurs années par un partenariat qui implique un prix globalement similaire de part et d'autre, d'où les craintes de l'ANAP aussi, l'Association nationale des producteurs. Elle redoute, mathématiquement elle aussi, un prix jugé trop bas. Son président Kofi Kanga.
Quand nous regardons le prix du Ghana par rapport au Cameroun, où ils sont à 5000 francs au kilogramme bon champ, et quand on sait comment le cacao pour cette campagne a été vendu à l'international, qui a atteint le record de près de presque environ 7 millions déjà. Et pour nous, aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'il y ait un prix véritablement plus compétitif, même à défaut de celui du Cameroun, mais quelque chose de véritablement beaucoup plus juste. Donc la conséquence, déjà, va forcément se faire sentir parce que le gouvernement ivoirien va vouloir certainement vouloir s'aligner sur le modèle du prix ghanéen ou à défaut ajouter juste 500 ou 200 francs. S'aligner, ça sera aussi évidemment injuste pour le producteur ivoirien parce que nous deux pays aujourd'hui, nous représentons quand même plus de 60% de la production mondiale. Et donc nous nous posons aujourd'hui même plus la question de savoir quel est aujourd'hui l'avantage de cette coopération bilatérale sur le cacao en termes d'impact sur le producteur ivoirien.
Kofi Kanga à la tête de l'ANA